Kassa. Je suis tout à fait.
Moi, c'est André de Mouzimaï, au Kassa Oriental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Parole aux auditeurs. La première ministre Judith Soumine Ntuluka a déposé le lundi 15 septembre devant l'Assemblée nationale le projet de loi de finances pour l'exercice 2026 estimé à 59,020,5 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains. Une progression de 16% par rapport à l'année précédente. Selon la chef du gouvernement, ce résultat est le fruit des réformes structurelles initiées comme la digitalisation des régies financières, la rationalisation des exonérations et l'amélioration du climat des affaires pour attirer les investissements. La première ministre était accompagnée de quelques membres du gouvernement, notamment les vice-premiers ministres et ministres du budget, le ministre des Finances ainsi que le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Que pensez-vous de ce projet de budget exercice 2026? C'est autour de cette question que nous allons échanger pendant environ 55 minutes dans ce nouveau numéro de Paroles aux auditeurs de ces jours. Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook et Paroles aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net pour réagir dans les groupes WhatsApp des Paroles aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les 099-706-80-79, 099-706-80-79. Debs Vita est à la mise en onde de ce magazine. Paul Bayanyama assure le live de cette émission et Julie Fezabongonda en assure la réalisation et la coordination. À la présentation, Guy Maté.
Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport à ça.
Je suis vraiment ravi par la pertinence de vous.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
On n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Encore une fois de plus, bienvenue dans ce nouveau numéro de Paroles aux auditeurs. Merci à tous ceux qui ont réagi sur la page Facebook et aussi qui se sont inscrits pour réagir. Nous parlons aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, du projet de budget exercice 2026 de la RDC dont le montant est évalué à plus de 20 milliards de dollars américains. Et pour échanger sur ce sujet, nous recevons ici au studio Steve Kivuata. Il est doctorant en droit public et inspecteur des finances et il est actuellement membre du cabinet du vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Muzito. Bonjour Steve Kivuata.
Bonjour Guy Maté.
Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
D'abord, ce projet de budget est déposé dans un contexte de guerre, un contexte où des villes, certaines villes importantes du pays sont sous occupation. Alors, quel pourrait être selon vous les caractères réalistes d'un budget de plus de 20 milliards de dollars américains, là où les recettes, n'est-ce pas, importantes en provenance de ces villes qui sont sous occupation, ces recettes échappent totalement au gouvernement de Kinshasa.
Effectivement, vous avez raison que la guerre a eu un impact négatif sur les recettes publiques. Déjà, en 2025, le gouvernement a dû faire un budget rectificatif pour réduire le recette budgétaire. Je pense que l'impact était de plus ou moins 700 millions de dollars. Nous en sommes conscients. Et les projections qui sont faites sont très réalistes. 20 milliards de dollars pour le budget de manière globale. Mais pour le budget général, c'est 18 milliards de dollars. Donc le budget, de manière globale, il y a le budget général, il y a le budget annexe et les comptes spéciaux. Le budget annexe et les comptes spéciaux sont gérés par des organismes auxiliaires. Ce qui va être géré par le pouvoir central, c'est 18 milliards de dollars, dont les recettes internes sont plus ou moins de 12,5 milliards de dollars que nous sommes en mesure de mobiliser. D'ailleurs, les régies financières démontrent leur capacité, ainsi que les recettes extérieures que nous allons mobiliser à plus ou moins 6 milliards. Donc, ce budget est très réaliste et nous avons effectivement tenu compte de l'impact négatif de la guerre à l'Est.
Réaliste, n'est-ce pas, paradoxal, quand on sait que les volumes, n'est-ce pas, de l'activité économique est sérieusement affecté par cette rupture de l'interconnexion des échanges avec les provinces qui sont occupées.
Ouais, c'est fort regrettable que ça soit des Congolais qui contribuent à une certaine régression de la productivité de notre économie, mais nous avons réellement tenu compte de l'espace qui est sous contrôle du pouvoir central et de l'évolution du PIB qui a été évalué à plus ou moins 5,3% par rapport à 2025. Donc de ces côtés-là, tout a été pris en compte, le budget est réaliste et les recettes telles que prévues, comme recettes courantes, seront mobilisées et notre programme avec le partenaire bi et multilatéraux, principalement le FMI et la Banque mondiale, va nous permettre de mobiliser les recettes extérieures à la hauteur de 5 à 6 milliards de dollars.
Vous avez dit projection réaliste. Quels pourraient être les risques géopolitiques, macroéconomiques qui puissent, n'est-ce pas, affecter la réalisation de ces budgets?
Jusque-là, nous avons tenu compte de tous les risques possibles et vous l'avez d'ailleurs vous-même dit que en ce qui concerne la mobilisation de recettes courantes, il y a un paquet de réformes qui sont mises en place pour pouvoir permettre que les régies financières arrivent à mobiliser 12 milliards de dollars, ce qui va permettre de financer la guerre, comme vous le dites. Nous sommes dans un contexte de guerre, mais aussi de financer la construction de l'économie à travers les infrastructures, mais aussi le social de la population, parce que le chef de l'État y tient. Vous avez vu la gratuité de l'enseignement, la couverture de la santé universelle, mais aussi la construction des écoles et des centres de santé sur toute l'étendue du territoire national, parce qu'effectivement, nous allons continuer avec le programme PEDEL 145 territoires.
Justement, c'est ça la question. Quel pourrait être l'impact de ces budgets-là s'il est adopté et promulgué dans ces formats? Quel pourrait être son impact sur l'éducation, sur l'agriculture, sur la santé, dans un contexte, n'est-ce pas, caractérisé par un déficit des routes, un déficit d'électricité, un déficit de l'eau? Et pendant que on sait que dans ces pays, tous les budgets, les gros de ces budgets, ont toujours été affectés au fonctionnement des institutions politiques.
Non, nous allons.
Vous pensez que ces budgets auraient un impact sur le social?
Bien sûr, sur les trois terrains. Parce que moi, je me suis dit que le chef de l'État, en désignant l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito comme VPM budget, en reconduisant l'actuel ministre de Finances Doudou Fouamba et en désignant l'actuel gouverneur de la Banque centrale ainsi que l'actuel chef des services de l'IGF, il s'est dit qu'il doit avoir un dispositif de finances publiques qui pouvait lui permettre de faire de bonnes finances pour faire une bonne guerre, comme le dirait Henri IV. Mais la guerre, elle est triple. La guerre, elle est d'abord militaire. Dans ces budgets, on a prévu effectivement suffisamment de fonds pour renforcer notre défense et renforcer notre sécurité. Et sur le plan économique, les infrastructures, nous allons les financer. Les dépenses d'investissement, ça représente plus de 34% du budget. Et pour le social, il faut le savoir, comme je l'ai dit, les dépenses du personnel ont augmenté de plus de 10%. Parce que nous allons effectivement augmenter les salaires de fonctionnaires et autres agents publics de l'État. Il n'y aura pas que le fonctionnement. Et pour l'agriculture, effectivement, on a augmenté le fonds pour investir dans l'agriculture. Nous allons maintenir les dépenses pour assurer la gratuité de l'enseignement. Mais aussi, je vous ai dit, le PEDEL 145 territoires, il y a plus ou moins 2 milliards de dollars prévus pour les infrastructures dans les différents territoires de la République. Mais il faut le savoir aussi que le chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, pendant qu'il finance avec les ressources budgétaires les infrastructures, la construction des infrastructures, nous sommes aussi en programme avec, en contrat avec les Chinois, avec Sicomines, où on finance les infrastructures à la hauteur de 300 millions de dollars l'année. Et très bientôt, d'ailleurs en décembre, il va inaugurer les barrages de Kakobo là.
Et donc on a assez de ressources et de financements.
Assez de ressources, aussi bien budgétaires qu'extra-budgétaires, comme avec Sicomine, où nous mobilisons 300 millions de dollars par an, rien que pour les infrastructures.
Voilà, on a toujours dans ces pays des ressources importantes, n'est-ce pas, des financements. Et je vois la première ministre, lorsqu'elle déposait les budgets au Parlement, elle a parlé de certaines réformes, notamment la digitalisation des régies financières, la rationalisation des exonérations et l'amélioration du climat des affaires pour attirer les investissements. Alors, quels sont les mécanismes de contrôle et de transparence pour garantir justement la bonne gouvernance, n'est-ce pas? Et pour aussi éviter la corruption qui gangrène le pays, pour éviter les gaspillages et aussi, n'est-ce pas, les détournements des deniers publics.
Je vous l'ai dit que...
Les mécanismes que vous avez mis
en réalité,
qui sont prévus.
C'est d'abord son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, qui a nommé de nouveaux animateurs dans son dispositif de finances publiques. Il y a Adolphe Mouzito, ancien inspecteur général de finances et ancien Premier ministre. Il y a Dodou Fouamba, qui a été reconduit, mais il y a André Wameso, gouverneur de la Banque Centrale. Il y a Christophe Bitassi, moi, comme inspecteur général chef des services de l'IGF. D'abord, c'est les contrôles de l'inspection générale de finances, qui est un outil majeur pour la lutte contre la corruption. L'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito, VPM Budget, l'a dit que pour la paye des mandrats, entre autres à l'IGF, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de fictif. Parce que ce fictif-là, s'ils sont extirpés de fichiers de la paye, ça va permettre une augmentation de recettes. Une augmentation de fonds que l'on peut allouer à l'augmentation des salaires des fonctionnaires qui sont réels, qui travaillent pour la République. Mais par la même occasion aussi, ces fonds importants qui sont alloués aux infrastructures, eh bien l'IGF devra suivre pour que ce fonds, ne fût-ce qu'un dollar, puisse réellement être utilisé pour les infrastructures de la République. Nous n'allons pas tolérer la corruption. De toute façon, vous avez vu comment le chef de l'État a impulsé l'IGF, a rendu l'IGF efficace. L'IGF est aujourd'hui dans le contrôle de finances et de biens publics sur toute l'étendue du territoire. Le gouvernement va travailler avec l'IGF. Et d'ailleurs, le VPM Budget, c'est un ancien inspecteur général de finances. Donc, nous allons effectivement utiliser ces boucliers anticorruption, mais aussi au niveau du gouvernement. La première ministre insiste toujours sur l'éthique autant que le président de la République.
La digitalisation des régies financières pourrait suffire, n'est-ce pas, pour combattre les coulages des recettes publiques?
Il n'y a pas que ça, il y a un paquet de réformes. D'ailleurs, le ministre de Finances ne fait que suffisamment en parler. Il y a la facture normalisée, il y a la question de la numérisation. Toutes ces réformes visent à annihiler la fraude fiscale. Doit pousser les entrepreneurs à contribuer à cet effort de mobilisation de recettes en payant ce qu'ils doivent à l'État.
Voilà, la Première ministre a aussi évoqué parmi les réformes l'amélioration du climat des affaires. On sait que beaucoup d'investisseurs ne viennent pas s'établir au Congo à cause justement de ces facteurs-là, le climat des affaires qui n'est pas attrayant. Et qu'est-ce qui a été fait concrètement, parce qu'on le dit chaque fois, amélioration du climat des affaires, qu'est-ce qui a été fait concrètement sur le terrain pour justement améliorer l'environnement des affaires dans ces pays?
C'est au fait un paquet de réformes. Toutes les réformes visent l'amélioration du climat des affaires, la lutte contre la corruption. D'abord, la lutte contre les agents véreux. Ce sont des mesures qui doivent permettre à améliorer le climat des affaires. Mais de l'autre côté, il y a aussi l'amélioration de la situation salariale des agents publics de l'État. Parce que des fois, ce sont eux qui deviennent les acteurs des... la destruction de
climat des affaires
quand ils sont pas bien payés. Je vous ai dit, c'est plus ou moins 10% d'augmentation des dépenses du personnel, et nous visons aussi la lutte contre le fictif pour que effectivement cette économie que l'on va réaliser puisse être injectée dans les salaires de fonctionnaires. Mais il y a aussi effectivement tout ce qu'on dit, la numérisation des régies financières. Il y a un paquet de mesures qui seront mises en œuvre pour arriver à faire en sorte que les entrepreneurs viennent de plus en plus dans notre pays.
Dans ces projets de budget, vous avez prévu combien pour vous avez prévu d'augmenter combien, n'est-ce pas, pour améliorer, n'est-ce pas, les fonctionnements des institutions politiques, parce qu'on sait que chaque fois quand nous avons un nouveau budget, les fonctionnements des institutions, on affecte toujours beaucoup d'argent. Cette fois-ci, vous avez prévu d'augmenter combien?
Bon, il y a quand même une nette augmentation, mais comme on vous l'a dit, le souci est effectivement de comprimer les dépenses de consommation pour augmenter les dépenses d'investissement. Globalement, les dépenses de consommation, c'est-à-dire je prends les dépenses de personnel, disons les dépenses de salaire et les dépenses de fonctionnement, globalement ça représente 64%. Si je ne me trompe pas, environ 64%, et plus de 35% est consacré à l'investissement. Pratiquement, comme je vous dis, on a prévu l'acquisition des équipements ainsi que les investissements dans la construction de centres de santé, de routes de dessertes agricoles, des écoles, qui représenteraient plus ou moins 2 milliards de dollars.
Merci, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Capi. Vous suivez en ce moment votre magazine Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui du projet de budget exercice 2026 et de la RDC, et dont le montant est évalué à plus de 20 milliards de dollars américains. Et on en parle avec notre invité Steve Kivuata, qui est doctorant en droit public et inspecteur des finances. Il est actuellement membre du cabinet du vice-premier ministre et ministre du budget Adolphe Muzito. Nous allons ouvrir notre standard parce qu'il y a des auditeurs qui attendent, qui veulent, n'est-ce pas, donner leur point de vue par rapport à ces sujets. Voilà. On va commencer, on va aller à Lubumbashi, je pense. Non, c'est plutôt à Kinshasa avec Junior Bopongo. Junior Bopongo, qui est chercheur indépendant en gouvernance et mécanismes des sorties des crises en contexte des conflits armés, et spécialiste des enjeux de légitimité et des participations dans les accords de paix. Junior Bopongo, bonjour.
Bonjour M. Guy Mathieu, bonjour à l'invité et à de nombreux auditeurs de la Radio Capi. Je félicite aussi pour la thématique et merci pour la parole. J'ai suivi l'invité. Il nous dit qu'ils ont présenté au moins un projet de loi des finances réaliste. Mais le réalisme budgétaire voudrait que aussi qu'il y ait l'amélioration des conditions de vie des Congolais ou bien de la population. Lui-même, il vient de parler parce que dans sa dernière phrase, il dit. Près de 64% du budget sont destinés aux dépenses de la consommation et 35 ou 36% c'est pour les dépenses des investissements. Vous allez vous rendre déjà compte qu'avec ce décalage, on est vraiment loin d'atteindre le niveau du développement économique, parce que c'est comme si on était en train de travailler pour un budget des consommations. Et dans la consommation, vous allez voir que au moins 40% c'est pour les dépenses institutionnelles et beaucoup plus des institutions politiques. Alors qu'aujourd'hui, on devrait vraiment s'appesantir sur la réduction du trait de vie des institutions. Chose, bon, je ne sais pas, peut-être que l'invité pourrait peut-être nous éclairer par rapport à ça.
Merci beaucoup.
Je reviens maintenant par rapport à la loi des finances.
Allez-y,
en science des finances publiques, je vais citer. En science des finances publiques, la loi budgétaire n'est pas qu'un exercice comptable, mais un acte de souveraineté et un contrat social. Or, quand vous lisez très bien le projet de loi des finances tel qu'il est déposé à la Chambre basse du Parlement, il illustre un écart structurel entre les intentions affichées et la faisabilité réelle. Les prévisions des recettes s'appuient sur des bases fragiles, souvent déconnectées de la capacité contributive de l'économie nationale. Parce que nous n'en produisons rien et c'est vraiment dommage. De plus, la ventilation des dépenses témoigne d'une faible priorisation des secteurs sociaux, tels que la santé, l'éducation, protection sociale. Tout ça, vraiment, c'est vraiment de l'illusion. Et je suis en train de me rendre compte que quand bien même on nous a présenté une augmentation de 16%, on est en train de nous vendre l'illusion. Il s'agit bel et bien de l'enfumage, et c'est dommage. Donc, quand vous prenez tous ces éléments, cette dissonance bien relevée par plusieurs analystes budgétaires aussi, souligne les dangers d'un formalisme budgétaire où l'arithmétique des chiffres supplante la logique du développement. Et merci. C'est comme ça qu'on tourne à rond, sans pour autant au moins faire avancer les choses. Chaque année budgétaire ou chaque exercice budgétaire, on nous présente une croissance, mais dans la réalité des faits, les peuples ne sont pas cette amélioration.
Merci.
Les paniers des ménagères continuent de pointer et c'est bien dommage.
Merci beaucoup, Julien Robompongo. On quitte Kinshasa pour Lubumbashi dans les Haut-Katanga où Maître Patrick nous attend. Maître Patrick Odia, bonjour.
Bonjour Guy Matin, bonjour Maître Steve Kivata.
Bonjour.
Allez-y Maître Patrick.
Et à tous les auteurs de la Radio Capi, merci de m'associer à ce niveau du débat. Je suis heureux d'écouter Maître Steve, ça faisait plus de 2 ans qu'il était à l'inspection. Aujourd'hui, il a eu quand même la chance de sortir du lot et quand même donner un avis. Personnellement, je suis heureux pour lui. Cependant, je voudrais aborder la question du jour par rapport avec les budgets. Je pense que sur le plan de la forme, ça a été déposé dans les délais. Je vis également l'association, l'unité autour de l'élaboration du budget initié par le FEPM du budget. Ça, c'est quelque chose à saluer également. Nous avons vu que tous les états-majors ont été sensibilisés pour l'élaboration de ces budgets, dans les délais et tout ce qui va avec. Ça, c'est une chose que nous encourageons et que nous avons également apprécié. Autre chose, Monsieur Steve Kivate, vous êtes chercheur, par exemple, et lorsque vous dites 34 ou 32%, ce sont les fonds liés à l'investissement également. Donc, ça veut dire que les 60 quelques ou le 50 quelques également sont les budgets en rapport avec le fonctionnement des institutions politiques, et à l'occurrence, la présidence, les sénats, etc., etc. Ça, c'est la première inconcrité, je vais dire même la première erreur matérielle, parce que nous avons décrié autrefois également que le fonctionnement des institutions devait prendre au moins des pourcentages par rapport au pourcentage lié à l'investissement, également à l'amélioration des conditions sociales également. Mais chose n'a pas été faite. Moi, c'est de ce côté-là, c'est un échec. La deuxième des choses également, M. Sulkivata, vous avez relevé le fait que le budget propre de l'État, c'est à 18 milliards, à 12 milliards, si je ne m'abuse pas,
oui.
Et les 6 milliards proviendraient, je ne sais pas, des payeurs, des fonds.
Partenaires, oui.
Ça aussi, et oui, ça aussi, Guy Matri, il faut se le dire également, à quand nous devons cesser de toujours dépendre dans notre budget propre avec l'aide extérieure également. D'autant plus que nous dénonçons la politique de l'Occident, de l'Europe et tout ce qui va avec. Mais de l'autre côté, nous prévoyons également recevoir quand même 6 milliards qui proviendront des... Et en même temps, nous allons dire que non, nous n'avons pas besoin d'injonctions. Je pense qu'il connaît très bien la main qui donne, c'est la main qui reçoit également et qui donne des injonctions. Je pense que prochainement, il faudrait éviter ou diminuer, tant soit fait, pour ne pas dire éviter, mais diminuer l'aide extérieure également. Et ce que j'essaie de dénoncer également, c'est la dépendance aussi au secteur minier, Marcel. Dimaté, lorsque vous voyez le budget, le projet de budget également 2026, vous voyez que la plupart des pourcentages, la plupart des dépenses, j'allais dire de charges et dépenses également, sont liées ou proviennent ou proviendront également du secteur minier. Donc, comment voulez-vous que nous puissions nous développer alors que le budget de l'État dépend essentiellement, prioritairement, oui, j'ai dénoncé le fait que le budget soit prioritairement dépendant du secteur minier, alors que nous avons des priorités, nous avons pris des engagements, qu'on devait, on va dire, élargir, diversifier l'économie, notamment les domaines agricoles et les domaines également de l'éducation. La question que je vais poser à M. Steve Kivata, Maître Steve Kivata, est-ce que vous pouvez, parce que vous êtes dans le cabinet du FEPM, est-ce que vous pouvez nous préciser combien les pourcentages concrètement reviendront à l'agriculture? Ça, c'est la première question. La deuxième question également, M. Steve Kivata, combien de pourcentages reviendront à la recherche? Parce qu'il ne faudrait pas que nous fassions des émissions et puis on prend les déclarations, les résolutions, on met de côté. Je pense que s'il n'y a pas la recherche, parce que lui-même est chercheur, Mais s'il n'y a pas également l'agriculture, l'amélioration des conditions, et s'il n'y a pas la rigueur, parce que le budget doit répondre également à quelques critères ou principes, notamment celui de la sincérité du budget. Je pense que nous devons mettre l'accent sur la diversification de l'économie, notamment l'agriculture, la recherche et l'amélioration des conditions sociales. Et quand je parle de l'amélioration des conditions sociales, je voudrais un peu qu'il nous précise également, Maître Kibata, combien touche un professeur d'université ou les corps enseignants en général, qu'ils soient des maternelles, primaires, secondaires. Est-ce qu'il y a une amélioration de combien de pourcentage? Et les médecins également, avec les grèves qu'ils sont en train de faire chaque jour ici, combien pouvons-ils également se réjouir avec les budgets? Parce qu'il y a eu augmentation, mais il faudrait que les médecins, les magistrats, j'allais dire les autres cadres et les corps enseignants, puissent également se retrouver dans l'amélioration des budgets. Il ne faudrait pas qu'on améliore le budget, les chiffres, la taille, mais de l'autre côté, les paniers ménagères ne font absolument que...
Merci,
j'allais dire, il existait également. Pour citer M. Steve Kibata, je voudrais en toute sincérité vous inviter, vous du cabinet du PFM, à faire une communication publique où les journalistes avons essayé de poser des questions. Ça nous épargnerait à certains malentendus ou à certaines incompréhensions également. Il faut qu'il y ait une communication. Voilà au moins ce que nous pouvons dire ici, tout en vous invitant, que vous avez soulevé, vous êtes inspecteur général des finances. Quand vous dites que non, on est en train de mettre l'accent sur la corruption, c'est bien beau. Et à combien ou à combien d'argent ont été remis dans la caisse ou de l'intéressant du public?
Non. Merci, Maître Patrick Koudia.
Lutte contre la corruption, elle est verbale ou elle est mesurée à 2 ou 3%, alors qu'il y a chaque jour le détournement. Je pense qu'il ne faudrait pas ici qu'on amène 20 milliards pour que les institutions politiques puissent détourner et les autorités et les agents puissent détourner 15 milliards. Et c'est ça que nous vivons malheureusement dans ce pays.
Merci beaucoup, Maître Patrick Odia. On reste à Lubumbashi avec Emmanuel. Emmanuel, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. C'est monsieur Emmanuel Ndala depuis Lubumbashi. Je serai très bref parce que tous les points que je voulais abordés ont été soulevés par mon prédécesseur. Mmh. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention l'exposé de notre invité, l'inspecteur Steve. Il a relevé des points très importants et ce que je retiens dans son exposé, c'est surtout cette rigueur qui sera d'application pour freiner cette hémorragie à laquelle nous sommes en train d'assister, je cite, la corruption. En suivant aussi les discours de Madame la Première Ministre, avec toutes les réformes qu'elle nous a proposées, c'est vraiment un projet de budget très ambitieux. Alors, nous sommes en train de nous demander chaque fois. Nous étions d'abord à 4 milliards dans les régimes passés. La vie sociale était plus ou moins acceptable. Nous sommes passés de 4 milliards à 8 milliards, de 8 milliards à 12 milliards, et nous avons constaté, nous sommes en train aussi de le constater, que le social de la population est en train de se dégrader. Et nous ne comprenons pas. Et voilà qu'aujourd'hui, on nous présente un budget de plus ou moins 18 milliards de dollars. Et parmi les priorités, je ne vois pas un accent mis sur le social de la population. Nous avons commencé avec les projets des 145 territoires. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est de l'illusion seulement qu'on nous a vendu. Et nous allons demander au vice-premier ministre, ministre du budget, étant donné qu'il vient de l'opposition, je pense que l'opposition, tout ce temps, était en train de critiquer les budgets qu'on présentait chaque année, et qu'aujourd'hui, cette opposition est au pouvoir et nous présente un budget comme celui-ci, de 18 milliards de dollars. Nous demanderons au ministre du budget, au vice-premier ministre du budget, ainsi qu'à toute la crème dirigeante, de mettre beaucoup d'accent sur les sociales de la population. Nous insistons.
Merci,
l'enseignant
Emmanuel.
Au primaire touche combien? Même si on nous parle de l'amélioration des salaires, l'enseignant touche combien? Un policier sans grade touche combien? Même ceux qui sont gradés, même plus haut gradés, ils touchent combien?
Merci, on a compris.
Le gouvernement, cette fois-ci, fasse de tout son mieux pour que c'est ce budget qui est vraiment élogé,
puisse impacter les salaires des enseignants.
De la population.
Voilà. Merci beaucoup. On quitte Lubumbashi pour...
Les enseignants touchent combien?
Voilà, on quitte Lubumbashi pour Bukavu, sud Kivu, où Amos Bissimwa va intervenir. Amos Bissimwa, bonjour.
Bonjour Guy Maté, bonjour à tous les auditeurs, de la radio Okapi, bonjour à l'invité. En fait, nous tous, nous avons suivi que le budget 2026 a été déposé à l'Assemblée nationale et le discours de Madame la Première ministre. Mais pour moi, ce discours ne peut pas nous impressionner parce que il n'est pas le premier que la Première ministre a fait et qui n'a rien produit par la suite. Tout ce qu'elle nous avait promis jusqu'à quand elle a pris le pouvoir, rien n'a été réalisé, surtout la paix à l'Est. Voilà pourquoi on ne peut rien attendre de son discours. Son gouvernement, qui a démontré ses faillites, a été reconduit à plus de 90% pour montrer au peuple congolais que le régime en place n'est pas là pour l'intérêt du peuple. Souvent, mes professeurs l'avaient déjà dit, souvent on nous présente un budget, on nous présente des chiffres, mais sur le plan social, Guy Maté, rien ne change. Mon professeur vient de le dire, avec le régime sortant, on était à 4 milliards, et le régime en place critiquait chaque jour, non, le Congo avec tout ce qu'il a comme ressources humaines, comme ressources. Il ne peut pas avoir un budget de 4 milliards. Mais au moins, il n'y avait pas de difficultés que nous vivons aujourd'hui. Il n'y avait pas de grève dans différentes institutions du pays. Mais aujourd'hui, on nous a embrouillé. D'abord 6 milliards, d'abord 8 milliards, 16 milliards. Aujourd'hui, aux environs de 20 milliards. Mais quel est l'impact de ces chiffres dans le panier de la ménagère? Rien. Parce qu'il faut voir les salaires du policier, du militaire, de l'enseignant, de l'infirmier, et avec des grèves chaque jour. On a toujours été surpris de constater que, à plus de 85%, le budget sert les hommes politiques. Les chefs de l'État touchent combien d'argent? Au niveau du gouvernement, les ministres, au niveau de nos assemblées, de l'Assemblée nationale, du Sénat, ils touchent combien? Et nous, population, nous bénéficions quoi de ce budget? C'est tout un problème sérieux.
Merci.
Je voudrais poser la question à l'invité.
Allez-y.
Ils nous disent, les informations qui ont circulé dans les réseaux sociaux où nous dit, toi, contredit Bodji qui nous parlait de 16 milliards, et on a dit que nous dit, toi, dit qu'on n'est jamais arrivé à 9 milliards. Quelle est la vraie réalité par rapport à ça? Qui a menti et qui n'a pas menti? Et si Dimé Bodji aurait menti pour le peuple, alors que ce soit le gouvernement, parce qu'avant que le budget ne soit à l'Assemblée nationale, il est adopté au niveau du gouvernement, c'est-à-dire tous ces gouvernements ne méritent pas la confiance du peuple congolais. Et même les députés qui ont eu à tromper le peuple, que le budget était de 16 milliards et pourtant il n'est jamais arrivé à 9 milliards, tous ces gens sont des ennemis du peuple congolais.
Merci Amos Bissimoy.
Nous n'aurons pas de dirigeants qui ont le souci du peuple congolais, bien échangé. Je ne suis pas aussi d'accord que Mouzito est opposant. On ne peut pas être au pouvoir et s'appeler opposant. Je ne suis pas d'accord avec ça.
Ok, merci beaucoup. On a compris. On donne la parole à Steve Kivuata qui va répondre à toutes ces préoccupations. Je rappelle que Steve Kivuata, il est doctorant en droit public, inspecteur des finances. Il est actuellement membre du cabinet du vice-premier ministre et ministre des budgets. Steve Kivuata, vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup Guy Maté, merci à tous ceux qui ont posé des questions. Je peux peut-être demander à Guy Maté que nous allons faire d'autres émissions pour aller en détail sur différentes questions, parce que la question du budget, elle est énorme. Voilà. Vous voyez que les gens ont besoin de précision sur des postes, sur des ministères, sur des sections du budget. Nous n'avons pas suffisamment de temps pour en parler en détail, mais globalement d'abord, pour le budget, en termes de communication, j'ai commencé par dire qu'il y a d'abord le budget de manière globale. Quand on parle du budget de manière globale, on inclut même le budget annexe. Le budget annexe, c'est quoi? C'est par exemple les recettes et les dépenses de l'Unikin, par exemple. Vous voyez, ça n'a pas d'impact sur la gestion de l'État. Et il y a le recettes et les dépenses de comptes spéciaux, FPI, FONER, etc., etc. Donc, quand on parle de 20 milliards, en réalité, 2 milliards, c'est pour les budgets annexes et les comptes spéciaux. C'est ainsi que quand on parle de ces chiffres, les gens peuvent être embrouillés. En réalité, le budget qui est géré par le pouvoir central, on l'appelle le budget général. dans le budget général, de manière globale, nous avons les recettes internes que nous mobilisons avec les impôts, la douane, avec les recettes non fiscales mobilisées par la DGRAD. Et nous avons le recette, bon, dans les recettes internes, on a aussi les emprunts intérieurs et les recettes exceptionnelles. Et vous avez maintenant, en termes de recettes extérieures, tout ce que nous pouvons mobiliser auprès de partenaires bi- et multilatéraux. Des fois, ces chiffres peuvent embrouiller. Et l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito, l'actuel VPM du budget, aime beaucoup insister sur les recettes courantes, qui sont les recettes qui sont mobilisées à travers nos régies financières. C'est ainsi qu'il a parlé de 12 milliards et avec le budget rectificatif en 2025, il était arrivé à 9 milliards. Donc, quand vous entendez peut-être le ministre Bodji parler de 16 milliards, il parle du budget général en incluant et les recettes courantes et les recettes extérieures. Donc, peut-être la confusion est arrivée à ces niveaux-là.
La dépendance au secteur minier, ça c'est Maître Patrick Odia qui l'a relevé.
C'est un problème réel, mais c'est pas quelque chose que nous allons résoudre du jour au lendemain. Pour arriver à diversifier l'économie, pour qu'on ne dépende pas que du secteur minier, nous devons entre autres passer par la construction des infrastructures, aussi bien routières qu'énergétiques. Et moi je vous dis que le président Félix Tshisekedi et tout son gouvernement sont sur cette lignée-là. Je vous ai dit que en termes d'infrastructures, ne fût-ce que pour le PEDEL, c'est plus ou moins 2 milliards de dollars qui seront consacrés. Et les années précédentes, c'est environ 1 milliard de dollars qui étaient consacrés. Donc, il y a une réelle volonté d'aller dans ce sens-là. Mais en dehors de ces recettes budgétaires que nous mobilisons, il y a aussi le contrat avec le Chinois où nous mobilisons 300 millions de dollars chaque année pour les infrastructures. Donc, si réellement il y a la rigueur, si ceux qui sont autour du chef de l'État, dans le gouvernement, la volonté est de construire un bon bilan pour l'excellence monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi, les gens vont sentir un impact sur le social. Mais une autre question fondamentale où les gens ont insisté, c'est le social. Moi, je pense qu'il y a un effort.
Voilà, faible priorisation du secteur social, ça c'est Junior Bompongo.
Non, mais quand déjà on maintient la gratuité de l'enseignement, quand on finance la couverture de la santé universelle, c'est déjà quelque chose. Mais quand on construit les centres de santé. Ça, il parle de problèmes de centres de santé. Pourtant, on en construit avec le PEDEL 145 territoires et on projette de le faire. Quand on compte construire les écoles dans différents territoires de la République, c'est toujours le social. Mais peut-être que le social, les gens voient le panier de la ménagère. Mais ça, c'est indicateur pour arriver à l'atteindre. Il faut construire suffisamment d'infrastructures. Je pense que le différent projet de budget le prévoit, et il faut tout simplement que la matérialisation suive très rapidement.
Des promesses qui ne se réalisent pas, ça c'est Amos Bissimwa depuis Bukavu, qui a rappelé, n'est-ce pas, les discours de la première ministre quand elle est entrée aux affaires. Elle a promis de mettre fin, n'est-ce pas, à cette guerre qui affecte l'Est du pays. Et donc lui, il n'est plus impressionné par les discours de la première ministre parce que c'est des discours qui sont, n'est-ce pas, caractérisés par des promesses qui ne sont pas réalisables.
Non, il faut pas prendre la guerre à l'Est à la légère. En tant que patriotes, nous devons appuyer les efforts aussi bien du chef de l'État que du gouvernement dans ce sens-là. C'est ainsi que nous nous disons, nous devons faire de bonnes finances pour permettre au chef de l'État de faire une bonne guerre. Parce que gagner la guerre suppose, sur le plan interne, bien payer le militaire. Le budget 2026 va pouvoir effectivement améliorer les salaires de militaires, de policiers et de tous les agents publics de l'État. Faire une bonne guerre, c'est bien équiper l'armée. On a prévu plus ou moins 4 milliards de dollars pour les équipements, y compris effectivement les équipements militaires. Donc, nous allons nous renforcer dans ce sens-là, mais aussi c'est la diplomatie, où aujourd'hui les efforts sont fournis pour qu'on arrive effectivement imposer la voix de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations, surtout avec l'appui actuel des États-Unis.
Sylvain Aguenorf Oronia Demahagi, il est initiateur du mouvement citoyen Alliance citoyenne pour le réveil du Congo, candidat président de la République 2028, voilà celui qui l'annonce. Il dit ceci, un budget modique, plus de 6 259 357 456 francs congolais comme assignation à la DGDA pour un mois. Il dit somme plus de 60 milliards couvrant l'année, sans tenir compte des autres régies financières et autres sources de financement du budget national. Je doute de la sincérité des chiffres de ces projets de la loi des finances. Je ne l'ai pas encore lu, c'est ce qu'il dit, cherchant sa copie pour réaliser mes analyses, mais déjà sa modicité au regard des difficultés du pays ne me rassure pas. Les chiffres de ce budget sont sous-estimés et Adolphe Mouzito m'a déçu. Hein, ça, c'est selon lui. L'on pouvait aller à 120 milliards, hein, il dit ça, l'on pouvait aller à 120 milliards sans difficulté. Si ces députés étaient conscients des défis qu'attendent ces budgets, ils devaient les refouler et faire partir ces gouvernements. Les budgets et les consentements des contribuables par leurs représentants à percevoir les ressources au profit de l'État, ceux-ci les font malheureusement dans des poches trouées et voilà que les problèmes des citoyens ne sont pas résolus. Ces budgets représentent une véritable farce qu'on peut imposer à une seule province comme l'Ituri, avec plus de ses 4 douanes et ressources minières mal gouvernées. Ça, c'est Sylvain Aguenon. Vous avez compris sa préoccupation.
Oui, oui, il est assez dur contre le gouvernement.
Il dit qu'il n'y a pas de sincérité des chiffres par rapport à ces budgets.
Non, de toute façon, la pression fiscale qui a été appliqué est plus ou moins de 12%. C'est vrai que au niveau de l'Afrique subsaharienne, la pression fiscale peut aller jusqu'à 20%. Mais nous avons voulu ne pas, comme on dit, frustrer les entrepreneurs. Nous allons améliorer la pression fiscale qui va forcément améliorer les recettes courantes, mais il faut y aller doucement. Un autre petit correctif que j'allais donner, c'est un peu l'agrégation que je fais de dépenses de consommation et les dépenses d'investissement. Je pense que même dans les dépenses de consommation, nous devons quand même relever que il y a quelque part des investissements. Par exemple, les dépenses de rétrocession aux provinces. Parce que les dépenses de rétrocession aux provinces ont été aussi augmentées de plus de 47%. C'est vrai que dans les transferts...
Mais cette rétrocession ne sert qu'à payer, n'est-ce pas, les salaires des gouverneurs, des membres du gouvernement provinciaux et puis les députés provinciaux.
Non, il y a une part
on n'envoie plus les budgets pour les investissements.
Non, il y a une part réservée à l'investissement que nous allons sans cesse augmenter parce que le VPM Adolphe Mouzito tient à ce que le province puisse elle-même commencer à gérer les dépenses d'investissement, même si ça sera pas forcément le cas aujourd'hui, mais dans les prochaines années, ça le sera. Mais un autre point capital dans ce qu'on a pu dire dans les dépenses de consommation, il y a aussi la paye de la dette extérieure. Hein, parce que des fois, les gens ont peur de la dette extérieure. Je voudrais rassurer effectivement toute l'opinion nationale que nous payons la dette. On est à 14,5 milliards.
Voilà.
Mais nous payons la dette chaque année. On ne doit pas avoir peur de la dette comme si ça nous arriverait comme le temps de Mobutu. Parce que Mobutu, en réalité, il a emprunté 7 milliards. Du fait de ne pas payer la dette, ça s'est accumulé pour atteindre 14 milliards.
Pourquoi cette dépendance aux partenaires extérieurs, hein, et c'est Maître Patrick Odia qui vous a posé la question.
Non, c'est pas une dépendance. C'est au fait de la gestion normale. Au fait, quand vous gérez un État, il ne faut pas le gérer qu'avec des ressources propres. Un peu comme vous, dans votre propre vie, il y a des projets que vous ne pouvez financer qu'avec la dette, d'autant plus que vous êtes capable de la rembourser. Aujourd'hui, nous avons 14,5 milliards de dollars de dette publique, pas seulement des dettes extérieures, dette publique interne et dette publique extérieure, et ça ne représente que 17% de notre PIB. Or, effectivement, dans les ratios préconisés par le FMI et la Banque mondiale, on peut arriver jusqu'à 30% de notre dette extérieure. Si réellement, plutôt de notre dette public. Si nous mobilisons ces ressources extérieures et que nous le mettons dans les infrastructures réellement construites, ça va booster effectivement l'économie, ça va permettre aux entrepreneurs de réaliser l'expansion économique et de contribuer beaucoup plus aux recettes budgétaires de l'État.
Voilà, nous allons ouvrir une fois de plus notre standard où il y a, on reste donc à l'Ituri avec Georges Kilangalanga qui veut donner son point de vue. Georges Kilangalanga, bonjour.
Bonjour Monsieur Guy Maté, bonjour aux auditeurs de la radio Capi.
Allez-y.
Oui, Monsieur Guy Maté, je voulais dire à l'invité que chaque année, ils organisent une communication autour du budget sans que des effets réels soient observés sur le vécu des Congolais. Tout ce qu'il est en train de dire là, c'est déjà entendu, déjà vu. On n'a pas besoin de promesses. Chaque année, on nous fait ces promesses-là. On en a plus besoin. On veut voir le gouvernement travailler pratiquement. Le budget, quand même, c'est un document politique qui définit les ressources et les dépenses à effectuer durant une année. Monsieur Guy Maté, le budget est soumis à des principes, notamment le principe de sincérité budgétaire, le principe d'équilibre, le principe de légalité, le principe d'autorisation, pour ne citer que ceux-là. Mais lorsque vous regardez ce qui se fait chez nous, on foule tous ces principes aux pieds, on laisse place à des pratiques financières regrettables, la corruption et tout ce qu'on est en train de dire, ça, rien ne se fera. L'année passée, on nous a promis des routes. Si c'est de 36 000 kilomètres de route, où sont-elles? On nous a promis 7 000 kilomètres de routes asphaltées, où sont-elles? Je pense qu'on doit à un certain moment être sérieux. On doit à un certain moment se dire, voilà, on est fatigué de mentir, et cette fois-ci, faisons quand même les choses correctement. Tout le budget, tous les chiffres là, c'est bien d'accroître les chiffres. Mais lorsque ces chiffres, je vous donne un exemple, les professeurs d'université, sous Kabila, on avait un budget de 4 milliards de dollars. Mais ils avaient un salaire de 2 100 $, eux-mêmes l'ont dit. Aujourd'hui, on a 18 milliards, ils touchent ça 1 400 $. Vous imaginez, on en est où? Finalement, on veut quoi dans ce pays? Et quand on fait des discours, on est même à l'aise. Et on ment comme on respire. Et ça fait du bien parfois chez certains politiciens.
Merci.
Vous savez, à un certain moment, faire la politique, il faut être aussi rationnel. La politique ne veut pas dire qu'on ne doit pas être rationnel. On peut être politicien et on est rationnel.
Merci, Joseph Lamanda.
Dans ce pays, on n'a pas la conscience.
On a compris, on a compris.
De conscience.
Merci Georges Kilangalanga. Je rappelle que vous appeliez depuis Bounia dans l'Ituri. Nous allons lire les condensés des réactions, une production de Julie Feza et Bongonda. Les réactions des auditeurs au projet des lois des finances 2026 révèlent des opinions diversifiées allant de l'optimisme prudent à une critique acerbe de la gestion budgétaire. Les opinions qui sont favorables, les auditeurs favorables reconnaissent l'ambition du projet de la loi des finances 2026, notamment l'augmentation budgétaire, les efforts de digitalisation, la rationalisation des exonérations et la volonté d'une meilleure mobilisation des ressources. Ils insistent sur la nécessité d'une bonne exécution, d'une gestion transparente et d'un suivi rigoureux pour que le budget et un impact réel sur le développement socio-économique du pays. Les personnes qui soutiennent cette position, c'est Junior Bompongo depuis Kinshasa, Gaston Gandou depuis Kinshasa Gombe, Blaise Saïdi Atoubou depuis Kisangani, Emmanuel Kabemba depuis la ville de Kabinda dans la province de Lomami. Les opinions défavorables, les critiques reflètent un scepticisme marqué envers la sincérité et l'effectivité du budget. Les auditeurs dénoncent un budget jugé sous-estimé ou irréaliste, les manques d'innovation, l'échec des plans budgétaires passés, la mauvaise exécution, la persistance de la corruption et l'absence d'effets tangibles sur le quotidien des citoyens. Ils expriment un fort désenchantement vis-à-vis du gouvernement et des dirigeants politiques. Les personnes qui soutiennent cette position, c'est Sylvain Aguenorf, depuis Mahagi, en Ituri, Bagedambaga, Christian, depuis Bukavu, Ezekiel Pendekazi, de Kiwanja Ruchuru, au Nord Kivu, Alain Mwema Muhigirwa, depuis Goma, au Nord Kivu, Pati Mahimba, à Bandundu, Steve Bauguere depuis Bukavu, et les auditeurs neutres relèvent que bien que le budget soit présenté dans les délais et contienne des principes économiques essentiels, il reste soumis à des faiblesses dans son exécution. Ils insistent sur le besoin de transparence, la rigueur dans l'utilisation des fonds et la nécessité d'un changement dans les pratiques de gouvernance afin que les intentions budgétaires se traduisent en résultat concret pour la population. Alors les personnes qui sont nettes, c'est Georges Kilangalanga depuis Bounia, Freddy Mubenga depuis Likasi et Christophe Kalagbia. Alors en conclusion, c'est une question qui vous est adressée, Steve Kivuata. Les projets de la loi de finances 2026 pourraient-ils, en dépit des doutes, réellement améliorer la situation socio-économique de la RDC?
Effectivement, nous croyons que ça va améliorer parce qu'effectivement, le ministère du budget ne fait pas que de l'élaboration, mais fait aussi le suivi de l'exécution du budget. Tout ce qui est prévu, nous allons nous assurer que ça sera exécuté. C'est d'ailleurs ça le vœu de la première ministre Judith Suminois, qui a demandé au ministre du budget par sa lettre de mission de pouvoir veiller à la crédibilité budgétaire, de faire en sorte que ce qui est prévu, que ça soit exécuté, que ce qui n'a pas été prévu ne soit pas exécuté. Donc nous allons tout mettre en œuvre pour que ce qui est prévu soit exécuté.
Et quelles sont les réformes que vous envisagez pour cette fois-ci marquer la rupture avec le passé, notamment en garantissant une croissance inclusive et aussi garantir les progrès sociaux? Vous avez suivi les intervenants, ils reviennent sur ces facteurs.
Déjà en termes de recettes, nous allons insister sur toutes les réformes qui seront pour la plupart pilotées par le ministre des Finances, mais avec l'appui du ministre du budget, parce qu'on vous a dit que le ministre du budget fait le suivi budgétaire, donc le suivi aussi bien de recettes que des dépenses. Et côté dépenses, nous allons insister sur la qualité de la dépense, donc sur un contrôle réel avec l'IGF, mais aussi avec le ministère du budget, pour que chaque franc, chaque dollar du Congolais soit utilisé à bon escient.
Et en guise de conclusion, Emo?
Au fait, je demanderai aux gens d'avoir l'espoir pour la République. Nous sommes dans un contexte de guerre militaire, de guerre économique et de guerre sociale. Nous avons besoin que le Congolais ait confiance aux institutions de la République.
Merci, c'est par là que nous terminons cette émission. Nous disons merci à notre invité Steve Kivuata, doctorant en droit public et inspecteur des finances. Il est actuellement membre du cabinet du vice-premier ministre et ministre du budget Adolphe Mouzito. Merci aussi à tous ceux qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Debs Vita qui était à la technique, Paul Baganyama à la vidéo et Julie Feza Bongonda qui a réalisé et coordonné cette émission sous la supervision de Jean-Marc Matouak, à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite de programme sur Radio Capi.